Accent d'Europe, Léa-Lisa Vesterov.
Bonjour. Aux Pays-Bas, après 5 semaines de fermeture forcée, c'est un ouf de soulagement pour le monde de la culture. Les musées, théâtres, cinémas et salles de concert vont pouvoir ouvrir à partir d'aujourd'hui. Il y a une semaine, pour protester contre la décision du gouvernement de maintenir leurs portes closes, 70 hauts lieux de la culture ont fait de la résistance et avaient choisi de se transformer en salon de coiffure le temps d'une journée. Coiffeurs et barbiers étant autorisés à travailler. Parmi les rebelles, le prestigieux musée Van Gogh à Amsterdam ou encore la salle de concert de Doelen à Rotterdam. Le reportage de notre correspondante Anne Leray.
Dans le hall d'entrée, une femme se fait limer les ongles sous une lampe phosphorescente et devant le bar, 4 coiffeuses sont en plein travail. La salle de concert de Doelen, au lieu de la scène musicale à Rotterdam, fait partie des établissements qui ont choisi de se transformer en salon de beauté le 19 janvier dernier pour ouvrir leurs portes le temps d'une action de protestation. Depuis 1966, cette institution aura vu passer Nina Simone, Nirvana et récemment Ibrahim Malouf. Mais cette fois, la musique est différente. On y joue des ciseaux et du sèche-cheveux. Yannick Starink est la directrice des lieux.
Je sens que le besoin de culture n'est pas assez valorisé par notre gouvernement et c'est aussi pour cela que nous menons cette action aujourd'hui. Nous devons être traités à égalité avec les autres secteurs. Nous sommes fermés et c'est très difficile car on joue un rôle majeur dans la vie des gens ici, dans le centre de Rotterdam. Nous voulons être un endroit où le public peut venir, rester, se rencontrer, écouter de la musique, avoir des occupations culturelles. Or, quand nous sommes fermés, nous ne pouvons presque rien faire, juste nous occuper de l'administration, entretenir les lieux, décorer, repeindre, ce genre de choses.
Pour la directrice de la salle de concert, cette initiative solidaire et festive va donner plus de visibilité à un secteur humainement et économiquement touché de plein fouet par la crise.
C'est bien, les politiques sont ennuyées que nous fassions cela, je pense que c'est une très bonne chose. Nous allons avoir voix au chapitre maintenant. Quelque chose doit être fait et il n'y a maintenant plus aucune raison de faire passer le secteur culturel à la trappe.
Chanteuse d'opéra, la soprano américaine Catherine Dane vit à Rotterdam depuis des années. Le cheveu impeccablement lissé, grâce au brushing dont elle vient de bénéficier, elle s'apprête à monter sur scène.
En tant qu'artiste, j'ai perdu vraiment beaucoup de travail ces 2 dernières années et j'ai pu voir à quel point l'art est important pour tout le monde à l'heure où nous souffrons tous du confinement. Je ne dis pas que ce n'est pas nécessaire de limiter les contaminations du Covid, ça l'est. Mais essayer de prétendre que les arts ne comptent pas en ce moment, c'est complètement faux et injuste. Alors je suis là aujourd'hui pour apporter ma voix à la protestation contre la fermeture de la culture.
Sam Armstrong, le pianiste qui l'accompagne, confirme.
Les arts sont essentiels. Si nous les bloquons, nous fermons et mettons à l'arrêt une partie fondamentale de la société et de l'humanité. Nous sommes là aujourd'hui pour montrer qu'on peut créer et performer d'une façon responsable, sûre et inclusive, tout en respectant toutes les règles sanitaires.
Dans le public, il y a Chan, une étudiante qui n'a pas hésité à prendre rendez-vous pour se faire pomponner tout en écoutant un concert.
C'est une expérience vraiment intéressante et que vous ne faites pas souvent. Ce n'est pas commun de voir des artistes et des artisans qui viennent ensemble partager leurs passions et leurs talents. Je trouve que c'est magnifique.
De nombreuses municipalités néerlandaises ont tenté d'interdire cette journée d'action. Mais pour les professionnels de la culture, hors de question de reculer. Caroline Pietermaat n'a pas hésité une seconde. Elle est directrice du Hofplein, théâtre jeune public très apprécié à Rotterdam.
The show must go on. C'est trop important de faire du bruit, de dire aux gens, au public et au gouvernement pourquoi il est si important d'ouvrir à nouveau. Mon cœur s'est remis à battre aujourd'hui, dès que j'ai vu le public qui commençait à arriver.
Les théâtres, cinémas, salles de concert et restaurants sont donc ouverts de nouveau, mais jusque 22 heures seulement, et avec une jauge réduite, ce qui fait grincer des dents le secteur de la culture, fortement touché déjà par les fermetures des derniers mois. Depuis janvier, les néonicotinoïdes, ces pesticides qu'on surnomme aussi les tueurs d'abeilles, pourront être de nouveau utilisés en France, mais aussi en Belgique pour la culture de la betterave à sucre. Interdits en Europe depuis 2018 pour leurs effets nocifs sur les pollinisateurs et sur la biodiversité en général, la France comme la Belgique avait demandé une dérogation ces deux dernières années pour continuer à en utiliser. Dérogation accordée, Myriam Bell de la RTBF est allée rencontrer des cultivateurs de betteraves en Belgique.
Néonic, ce raccourci commun pour néonicotinoïdes a presque l'air affectueux. Pourtant, les défenseurs de la biodiversité maudissent cette catégorie de pesticides. Pour comprendre pourquoi, rencontre avec un expert. Des rideaux avec des abeilles au rez-de-chaussée, c'est bien ici.
Bonjour Monsieur Bruno.
Étienne Bruno, agronome spécialiste des abeilles.
Ce sont des produits qui ont une durée de vie très très longue, qui restent dans la plante et quand les abeilles allaient chercher du pollen ou du nectar, le produit se trouvait dans ces produits-là. Et donc quand les abeilles rentrent à la ruche avec ces produits-là, ça intoxique toute la ruche et la ruche, à terme, dépérit plus ou moins rapidement.
Les abeilles ont une fonction fondamentale pour notre alimentation.
Les abeilles sont des agents pollinisateurs, comme on dit toujours. La pollinisation, c'est ce qui va vous nous permettre d'avoir des fruits et toute une série de semences qui sont tout à fait utiles, sans quoi c'est tout le monde qui disparaît quelque part sans les abeilles.
Est-ce qu'aujourd'hui le lien est établi ? On peut lier le produit à une baisse de la population des abeilles en Europe ou ailleurs ?
Oui, il n'y a pas que les abeilles qui sont touchées. Il y a toute une série d'insectes, des batraciens, etc. peuvent être touchés par ces molécules. Et c'est pour ça qu'elles ont été enlevées du marché. Parce que quand on voit l'impact global que ça a sur l'écosystème, ce sont des produits qui devaient être retirés du marché.
L'Union européenne a interdit les néonicotinoïdes en 2018 sur tout son territoire. Et pourtant, 11 États ont demandé des dérogations ces deux dernières années, dont la Belgique. Il y a et il y aura encore l'an prochain des néonicotinoïdes dans les champs de betteraves belges. Vous avez quelques fers à cheval là-bas derrière ?
Oui, ce sont des éléments qu'on retrouve encore de temps en temps dans les champs. Il paraît que ça porte bonheur, alors c'est ça qu'on les met là à l'entrée de la ferme. On se partage la chance de génération en génération.
De génération en génération aussi, la famille de David Jonker cultive la betterave.
Voilà ici, une boîte de semences de betterave.
Bien scotchées.
Bien scotchées.
Ça ressemble à de minuscules billes orangées.
Ce sont de toutes petites billes. À l'intérieur de ces billes se retrouve la graine de betterave. Autour de cette graine, il y a un mélange d'argile. Et dans ce mélange d'argile, c'est là que l'on met le néonicotinoïde. Et ensuite, une pellicule tout autour nous empêche d'être en contact avec la matière active. Donc, au niveau de l'utilisateur, je préfère utiliser le néonicotinoïde que de devoir pulvériser 3 ou 4 fois par an.
Autour de la ferme, 30 hectares de champs de betteraves avec néonicotinoïdes.
On en utilise pour combattre certaines maladies transmises par certains insectes aux betteraves. Le puceron, c'est un petit insecte qui pique la betterave, il prélève un peu de sève pour se nourrir. Le problème, c'est que certains de ces pucerons sont porteurs de différents virus, et ce virus occasionne des pertes de rendement. La racine de la betterave reste petite, elle reste naine. Si on laisse un champ sans aucune protection et qu'on a une année où il y a énormément de pucerons et que ces pucerons sont porteurs du virus, on peut estimer parfois des pertes de 30, voire 50, peut-être même plus.
L'agriculteur insiste, la dérogation cadre fort l'usage de ces produits pour limiter leur portée. Ils ne sont utilisés que sur les betteraves, plantes qui ne sont pas butinées par les abeilles. Et les cultures qui suivront dans cette même terre ne devront pas non plus attirer les abeilles. Pour rassurer, il nous montre ses propres ruches en bordure de champ.
Mon petit rucher.
Si je pouvais me permettre de travailler sans pesticides, je le ferais, confie-t-il. Et tout est là. La rentabilité a chuté ces 4 dernières années après l'abandon d'un système européen qui encadrait le marché de la betterave et garantissait un bon prix de vente.
Depuis la disparition des quotas betteraviers, quasiment la moitié des betteraviers, depuis 4 ans, qui ne gagnent plus d'argent à semer de la betterave. Et l'autre moitié parvient à peine à couvrir les coûts de production.
À votre avis, comment être rentable sans ces insecticides ? Il faut changer de modèle ? Il faut des soutiens différents au niveau financier ?
Alors, changer de modèle, je pense que ça ne se fait pas en un jour, et ça se fait sans moyens, ça ne se fera pas.
Il faut soit que les groupes sucriers payent mieux l'achat de nos betteraves, dit-il, ou alors il faut revoir nos subventions européennes qui servent aujourd'hui à éponger nos pertes. Mais revoir le système de subsides européens, l'Europe a loupé ce coche-là, estime la ministre de l'Environnement en Wallonie. La toute nouvelle politique agricole commune de l'Europe n'amorce pas un changement suffisant et la Wallonie devrait compenser, estime l'écolo Céline Tellier.
On est dans un nœud à l'heure actuelle parce que la PAC telle qu'elle vient d'être votée ne va pas suffisamment loin. Mais la question maintenant, c'est que va proposer la Wallonie ? Moi, je plaide pour que nous ayons une vision très ambitieuse en la matière, pour justement accompagner le secteur vers cette transition. Ça doit se matérialiser dans des aides très concrètes, dans des subventions à l'agriculture, par exemple des investissements dans du matériel.
Au passage, l'écolo fustige le ministre fédéral, le libéral David Clarinval, qui pour la troisième fois a demandé cette dérogation.
Je ne soutiens absolument pas cette dérogation.
15 ans après l'apparition de ces néonicotinoïdes, il est tard, mais il est temps de chercher une alternative viable, tant pour les agriculteurs que pour les pollinisateurs.
En France, le 10 janvier, 5 associations de protection de la biodiversité ont déposé un recours devant le tribunal administratif de Paris. Ces associations estiment que l'État français ne fait pas assez pour réduire l'usage des pesticides. Alice Rougeat, bonjour.
Bonjour.
À l'heure où les néonicotinoïdes ont été réautorisés pour une année supplémentaire, c'est le deuxième volet de ce qui s'annonce être une grande bataille juridique.
Oui, déjà en septembre dernier, deux ONG avaient dénoncé les manquements de l'État en ce qui concerne la réglementation de l'usage des pesticides en France et en Europe, recours resté jusqu'ici sans réponse, d'où cette nouvelle attaque administrative.
Alors qu'est-ce que dénoncent ces associations exactement ?
En s'appuyant sur la littérature scientifique, elles accusent les produits phytosanitaires, herbicides, fongicides et insecticides d'être à l'origine d'une extinction massive de la biodiversité. L'épandage de ces pesticides dans l'agriculture intensive serait à l'origine de la disparition d'un tiers des insectes dans le monde, et cela met en péril notre sécurité alimentaire. En Europe, notre agriculture dépend à 80% des insectes pollinisateurs, ça représente pas moins de 15 milliards d'euros.
Pourtant, Alice, tous ces produits sont encadrés en Europe par une législation plutôt sévère.
Et c'est bien là tout le paradoxe. L'Europe a beau dénoncer l'usage de ces produits et ne les autoriser dans sa directive de 2009 seulement en cas de danger avéré, dans la réalité, beaucoup sont utilisés de façon préventive.
Ces ONG dénoncent aussi des failles dans l'homologation de ces produits.
Tout à fait. Barbara Berardi est la responsable du pôle pesticides au sein de l'association Pollinis. Elle explique que les espèces sont confrontées à plusieurs produits à la fois. Or, on ne teste pas cet effet cocktail.
Les organismes sont exposés à plusieurs pesticides à la fois. Par exemple, un agriculteur conventionnel, la pomme, qui est quand même assez gourmande en pesticides, reçoit en moyenne 35 traitements phytosanitaires par an. Donc c'est assez improbable qu'une abeille ou un pollinisateur ou n'importe quel autre organisme non cible soit exposé à seulement un de ces produits à la fois. On est dans le cadre d'une co-exposition évidente.
On peut ajouter le fait que certains produits augmentent la toxicité d'un autre, on parle de synergie, ou bien qu'on ne prend pas en compte les effets indirects. Par exemple, si un herbicide détruit l'environnement d'une espèce, alors celle-ci peut disparaître.
Et comment est-ce que ces organisations comptent au final obtenir gain de cause, Alice ?
Eh bien, par le droit et le soutien massif de la population. Parmi les 5 ONG qui déposent plainte, se trouve le collectif à l'origine de l'affaire du siècle qui avait mis l'État français face à son inaction quant au dérèglement climatique. Grâce à la pression d'une pétition signée par 2,3 millions de Français, le tribunal avait reconnu l'État coupable et l'avait condamné à réparer les dégâts causés.
Merci Alice Rougeat. Rappelons que le Pacte vert pour l'Europe prévoit de réduire de moitié les pesticides de synthèse d'ici à 2030. Et pour notre chronique en un mot, direction la Hongrie. Aujourd'hui, sous la loupe de notre correspondante Florence Labruyère, le mot « Speise », un joli mot qui parle à la fois de gourmandise et de sécurité. Reportage.
Rien qu'à entendre le mot Speis, on a l'eau à la bouche. Ce mot emprunté à l'allemand signifie garde-manger. Le Speis, c'est un élément indispensable de la vie quotidienne des Hongrois, explique Claire Ougnadi, une franco-hongroise, professeure de français à Budapest.
C'est un petit garde-manger, un petit kajibi avec de la place pour mettre les bocaux de conserve, les jambons qui sont accrochés, qui sèchent tout doucement, les œufs qu'on met pas au frigo directement, etc. On peut même y rentrer, c'est comme un petit kajibi. Et il y a des étagères partout. Et ça jouxte en principe la cuisine. C'est justement pour éviter de faire des kilomètres à la cave pour aller chercher les patates, les bidons d'huile, etc.
Si le garde-manger est plutôt typique des appartements anciens et des maisons de campagne, il revient à la mode.
De plus en plus, je vois des jeunes qui s'installent et qui disent « Ah ben non, ici il faudra le Speis, il faut penser au Speis, on a besoin du Speis ». Il y a pas mal d'expressions, faire des économies, mettre des choses de côté, « Bespeisolni », donc bien mettre tout ça de côté pour qu'on puisse l'utiliser un peu plus tard.
« Bespeisolni », c'est un verbe donc.
C'est un verbe, oui. Oui. « Be » qui veut dire « dedans » et « Speis », donc dans le Speis. Hop, dans le Speis. Épargner, mettre de côté pour les mauvais jours en fait.
Un peu l'équivalent du bas de laine français
ou... Oui, mais c'est pas en argent, c'est en nourriture.
Le mot Speis a donné naissance à l'une des expressions les plus imagées de la langue hongroise. Les Russes sont déjà dans le garde-manger. L'expression vient du film Le Caporal et les autres, une comédie satirique tournée sous le communisme. L'action du film se déroule peu avant la fin de la Seconde Guerre mondiale, alors que la Hongrie occupée par l'Allemagne est sur le point de tomber aux mains des Russes. Le personnage principal est un caporal hongrois qui déteste la guerre, raconte le critique de cinéma Gyurgy Baron.
C'est un homme simple qui n'a pas du tout envie de se battre. Il déserte l'armée et se réfugie dans un château à la campagne qui semble abandonné. Mais il se trouve qu'un tas de gens est caché là. Un vieil aristocrate et son majordome, des soldats allemands, un communiste hongrois, une femme, etc. Bref, des gens très différents mais qui finissent par former une communauté. Personne ne sait exactement où est l'armée russe. Mais on sait qu'elle se rapproche. Et tout ce petit monde survit en attendant la fin de la guerre.
Heureusement, personne ne meurt de faim, car dans ce château, il y a un Speis, un garde-manger plein de provisions. Un jour, l'un des habitants va chercher un pot de confiture dans le Speis. Il y fait une rencontre inattendue.
Il prend un pot de confiture sur l'étagère et tout à coup, il voit le visage d'un soldat russe qui s'est caché derrière les étagères. Effrayé, le Hongrois remet le pot de confiture à sa place et court avertir les autres. Il leur annonce « Les Russes sont déjà dans le garde-manger. »
La réplique « Les Russes sont déjà dans le garde-manger » est devenue une phrase culte. Elle signifie littéralement qu'il y a urgence ou danger et qu'il faut agir sans tarder. En pratique, les Hongrois l'utilisent dans toutes sortes de situations, observe Gyurgy Baron.
C'est une expression très courante, dont on change parfois un mot. Par exemple, quand des gens que vous avez invités à dîner arrivent en avance et sonnent à la porte, on dit « Ah, les invités sont déjà dans le Speis ». Ça peut exprimer la surprise ou le danger. Beaucoup de gens utilisent cette expression sans savoir d'où elle vient.
Pour les enfants comme pour les adultes, le Speis est aussi une cachette idéale pour garder des petits secrets.
Du courrier, indésirable, qu'on ne veut pas qu'on voit. Oui, c'est un très très bon endroit. Et puis il y a par exemple les valises, vous savez, avec les choses qu'on ne porte pas souvent. Il y en a une qui est au Speis. Ouais, les choses finissent par sentir le saucisson, mais... Moi, je vous dis, c'est un endroit agréable parce qu'on y va et puis on se sent rassuré qu'on a de quoi manger. Au moins quelques jours, si ce n'est pas quelques semaines.
Le Speis, c'est le symbole de la sécurité alimentaire, d'une abondance à portée de main et du péché mignon des Hongrois, la gourmandise.
Accent d'Europe, Françoise Grelot à la réalisation. Retrouvez-nous sur notre site rfi.fr ou notre podcast sur vos plateformes d'écoute. À demain!